Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone pour une autre édition de Société. Merci, chers auditeurs, d'être à l'écoute. Beaucoup de sujets encore cette semaine dans l'actualité, dont nous traiterons dans un instant avec le duo des Frédéric, donc Bérard et Lapointe. Tout de suite après, nous discutons avec la députée de l'Assemblée nationale, députée indépendante Catherine Fournier, de son nouveau projet politique Ambition Québec. On parlera des tenants et aboutissant de tout ça avec elle. Et puis, enfin, en dernière partie d'émission, Nicolas Vidal de Paris nous parle de la situation en France, bien sûr, notamment cet événement assez effrayant, là, ces policiers qui ont tabassé un homme. Il se trouve que c'était un homme à la peau noire. C'est vraiment dans l'air du temps. Tout ça au cours de cette émission. Alors, allons rejoindre nos collaborateurs préférés. Frédéric Bérard, chroniqueur au journal Métro. Bonjour.
Bonjour, Nick Payne.
Ah, attendez, je dois vous entendre, mais je ne vous entends pas. Ça s'en vient. Ah, ça y est, vous êtes là. Bonjour, Frédéric Bérard.
Bonjour, Nick Payne.
Et Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'Action Civique. Vous êtes au bout du fil, sans doute, vous aussi.
Vous m'entendez bien?
Absolument.
Parfait.
Alors, est-ce qu'on s'entendra bien après? Ça, c'est autre chose, mais en tout cas, on s'entend bien du côté, du point de vue du son. Beaucoup de sujets aujourd'hui, mais j'ai envie de commencer avec juste un moment là, sur cette histoire sordide de ces trois enfants maltraités, martyrisés dans la région de Granby, encore une fois, dont la mère a finalement été condamnée à de la prison là, tout récemment. On apprenait cette semaine que ces enfants-là avaient été secourus, découverts par un huissier qui passait chez eux pour autre chose. C'est un autre dossier qui relevait de la DPJ de l'Estrie. Coudon, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que, Frédéric Bérard, c'est vraiment le manque des moyens après, par exemple, peut-être l'austérité des années libérales? Ou est-ce que on se fait du scandale et qu'au fond, on ne peut jamais complètement éviter des affaires comme celle-là? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que la réponse est probablement entre les deux, Nick. D'abord, je trouve cette histoire-là, comme n'importe quel Québécois, absolument atroce. Le premier ministre Legault l'a souligné lui-même, là, c'est gênant. En même temps, est-ce qu'on peut vraiment... C'est-à-dire, c'est des problèmes qui sont rattachés à plusieurs autres socles, si je peux dire, là. L'économie, la violence au sens large, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'une société peut s'éviter totalement ce genre de catastrophe? J'en doute. Idéalement, oui, mais j'en doute. Pour le reste, c'est bien évident, cela dit, que les compressions du gouvernement Couillard, notamment, ont fait mal à ces organismes-là. Je connais plusieurs personnes qui travaillent pour la DPJ, comme avocat notamment. Et je parlais, c'est drôle, à une collègue là, qui est avocate, justement, qui a travaillé là pendant très longtemps et qui s'occupait de l'aspect plus religieux, là, quand il y avait des conflits, par exemple, avec la communauté juive ou des trucs du genre, où là, ça complexifie encore davantage l'affaire. Et ces gens-là sont un peu laissés à eux-mêmes. Je veux dire, évidemment qu'ils vont faire des erreurs, puis si ça, c'en est une, puis je pense que oui, c'est regrettable et la DPJ doit être blâmée. Mais reste qu'à un moment donné, il y a toujours une question de ressources. Et les gens pensent que parce que t'es l'État, t'es une machine épouvantable, mais la réalité, pour en connaître plusieurs, puis je suis sûr que c'est le cas d'entre vous aussi, de plusieurs d'entre vous, ben non, ces gens-là sont débordés, là, de manière générale. Il y a peut-être aussi une façon de revoir les choses là, et de mieux les faire par la suite. Ça, c'est pas impossible, je suis pas un spécialiste. Mais clairement, c'est un choix de société qu'on décide de faire. Et quand ce gouvernement-là a coupé un peu partout, on s'entend bien, mais notamment dans cette institution qui est névralgique, qui est pleine de travers, puis qui mérite d'être dormie, là, qu'on me comprenne bien, là, je prends pas la défense de la DPJ d'aucune façon. Je dis seulement que c'est un choix de société. Si vous réduisez les ressources là-bas, ben c'est ça qui va arriver par la suite. Puis on est un peu tous à blâmer en quelque sorte.
Frédéric Lapointe, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que sans les coupures libérales, un événement comme celui-là ne serait pas arrivé?
Non, je pense que c'est inévitable qu'on se retrouve avec des cas qui passent à travers le filet. Il faut penser aussi aux conséquences de ce que serait une DPJ qui chercherait à attraper tous les cas. Alors, vous vous retrouveriez avec des erreurs dans l'autre direction, c'est-à-dire des gens enquêtés à la moindre dénonciation, des enfants retirés de leur milieu alors qu'ils ne devraient pas l'être.
On entend déjà des critiques comme celle-là à l'occasion.
Oui, bien sûr, bien sûr. J'en ai rencontré quelques-uns. Et donc, il y aura toujours une importante marge d'erreur dans le travail de la DPJ. Et on ne veut pas avoir de faux positifs, on ne veut pas avoir de faux négatifs, comme dans le cas de Granby, mais c'est un travail qui est extrêmement risqué, ce qui me convainc, moi, de penser qu'il nous faut un environnement d'institution qui ne laisse pas ça sur les seules épaules de la DPJ. Dans le cas qui nous occupe, le garçon a été retiré de l'école à 15 ans, 15 ans et demi, 15 ans, trois quarts. Hein, la fréquentation obligatoire de l'école, c'est jusqu'à 16 ans. Il est assez courant que les commissions scolaires, lorsque des enfants en difficulté à 15 ans et demi, 15 ans, trois quarts, sont retirés de l'école, ben, ils s'en occupent plus. Donc, comme ça a été proposé à plusieurs reprises, et je pense que François Legault a reçu sur sa table de nombreux documents plaidant en ce sens, peut-être que les commissions scolaires devraient suivre les enfants, même s'ils ne sont pas à l'école, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et peut-être que dans le contexte d'un tel suivi, on aurait découvert ce cas beaucoup plus tôt. Donc, de ne mettre ça que sur les épaules de la DPJ, à mon avis, c'est pas une bonne politique.
On en échappe une partie du problème. Nos auditeurs ne nous en voudront pas de ne pas avoir beaucoup parlé de COVID ces derniers temps. Je pense que tout le monde en parle et très bien et beaucoup. Et bien sûr, il y a quand même des choses à dire là-dessus. Puis on va en parler cette semaine dès maintenant. Alors, les fameux party de Noël. C'était 4 jours au départ. Finalement, on comprend que c'est plutôt... C'était pas bar ouvert pendant 4 jours. Vous faites le plus de rencontres que vous le pouvez. Remarquez que je pense que personne n'avait compris les choses de cette façon-là, de toute façon, là, mais la santé publique a précisé là et a décidé finalement c'était plutôt 2 rencontres pendant ces 4 jours-là. Et on a entendu une chose étonnante cette semaine, Frédéric Bérard, en conférence de presse. Pour une première fois, je dirais, François Legault qui a vraiment pointé du doigt Horacio Arruda lorsqu'on lui a demandé « Monsieur Legault, pourquoi vous changez d'idée? C'est pas clair. » Legault a dit « Ben, c'est pas moi, c'est la santé publique. Ils ont dit une affaire la semaine dernière. » Puis 3 jours plus tard, ils ont changé d'idée. Est-ce qu'on sent une fissure là, dans le bel esprit de collégialité, Legault-Arruda?
Ben, c'est un esprit de collégialité qui était en surface depuis cet été, hein? Depuis juillet, peut-être mai. Évidemment, il y a une belle lune de miel entre les Québécois et Arruda tout court, ainsi qu'avec Legault.
Sauf vous?
Sauf moi, oui, mais ça, c'est comme l'habitude. C'est correct. J'assume ma dissidence. Mais moi, je trouvais que ce gars-là, c'est un arnaqueur de premier plan. Là. Et je n'ai certainement pas changé d'idée depuis.
Alors, pas parce que vous pensez qu'il est dans les complots de QAnon, mais vous trouvez qu'il n'est pas, à la page, il n'est pas au-devant des coups dans toute cette affaire-là.
Qui donc analysera cette gestion de crise-là? Et on s'entend que la barre est quand même très basse parce qu'on s'entend, c'est une pandémie mondiale. C'est pas un cas d'espèce, il y en a eu avant, mais quand même.
Tout le monde navigue à vue.
Oui, un peu, mais disons qu'il y en a qui ont l'air de voir un peu plus clair qu'Horacio, qui aimait bien faire la danse du pogo pendant que ça crevait à coups de centaines dans les CHSLD. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe avec ça, les CHSLD, Nick Payne?
Ah, ben, je suis pas allé voir récemment, mais aux dernières nouvelles, il y a des éclosions, nos auditeurs le savent probablement, davantage là récemment qu'au début de la deuxième vague, disons ça comme ça, mais je vous écoute.
Il n'y a pas eu de politique qui a été mise en place, on est rendu pratiquement au mois de décembre, là. Il me semble qu'on a eu le temps d'en parler en masse.
Alors, je comprends que votre question est une critique à l'endroit d'Horacio Arruda.
En fait, moi, je vais poser la question aux gens parce que c'est drôle, hein, parce qu'au début de la pandémie, tout le monde tripait sur Arruda, bon, grand bien leur face, et effectivement, j'étais un des premiers à le critiquer pour des raisons d'incompétence essentiellement, puis de contradiction et ainsi de suite. Et j'avais même reçu un appel du bureau du premier ministre me menaçant qu'il allait sortir en conférence de presse pour me dénoncer, puis blablabli, bloblu. Là, si je me rétractais pas, ben je dis préparez votre sortie de presse, je me rétracte pas certain. Et effectivement, ils ont fait leur truc, puis j'ai jasé longtemps avec le gars en question qui m'a appelé. Et je disais pas sérieux, là. Vous pouvez pas croire que vous trouvez ce gars-là compétent. Je vous crois pas. Il dit, ah, ben, c'est bien facile de dire ça, mais il dit, tu ferais-tu mieux, toi? Mais c'est quoi cet argument de débile? Non, je ferais pas mieux. Tu veux savoir pourquoi? Parce que je suis pas médecin. J'espère que je ferais pas mieux. En tout cas, j'ai même pas fait mes maths de 5,36.
Mais on comprend le sens de la question. C'était que c'est quand même inusité comme défi, là. Et puis, personne n'est vraiment complètement, parfaitement préparé à ça. Puis la nature même de l'exercice est approximative. C'est-à-dire qu'on s'ajuste en fonction des chiffres. On regarde la courbe.
En Colombie-Britannique, Nick, au mois de mars, il y avait, en fait, c'était le cas le plus fort au Canada, la province où ça brassait le plus. Ils ont mis en place certaines mesures, notamment dans les CHSLD, l'équivalent là-bas, où on empêchait le transfert et les déplacements et ainsi de suite. Mm-hmm. Ici, à Québec, Dubé nous a annoncé la semaine dernière que dans un mois, il allait recevoir un rapport et qu'on verra ce qu'on en fait avec ça.
Il essaie toujours de contrer, oui, c'est ça, la mobilité, la fameuse mobilité. Mais revenons à la question de départ. Dans ce cas-ci, là, Frédéric Lapointe, cette semaine-là, est-ce qu'on chipote, est-ce qu'on cherche... des fois, moi, j'ai l'impression que les oppositions à Québec essaient de reprendre la main, de se réinstaller dans le rôle d'opposition et cherchent quelque chose à critiquer. Puis c'est pas toujours très... convaincant. Est-ce que vraiment on a cafouillé là, sur le temps de Noël? Est-ce qu'on ne comprenait pas d'avance que tout ça est un peu fragile et que ça peut changer rapidement?
Ben, je comprends les oppositions de vouloir reprendre la main. On a passé plusieurs mois en mode passe égaux, réclamer 200$ ou sortir de prison sans frais. Enfin, au printemps, le gouvernement l'avait facile.
La grande union nationale sacrée.
Voilà, voilà, il y avait consultation d'ailleurs de tous les partis pour que ça continue. Et c'est correct dans le débat démocratique que les oppositions reprennent leur rôle. Moi, je pense qu'une des sources de ce problème, c'est l'excès de communication de la part du gouvernement. Vous vous souvenez, quand le gouvernement a voulu livrer des chiffres à la semaine plutôt qu'à la journée, ça s'est mis à crier, l'opposition a crié, les médias ont crié, le gouvernement a reculé.
Alors, on est trop transparent, on veut tellement trop dire de choses que on dit une chose et son contraire au bout de la ligne?
Je pense qu'on prend des risques à être devant les médias à tous les jours. On prend des risques à prendre des décisions qui ne sont pas suffisamment sous-pesées. On prend des risques à changer d'idée plus d'une fois. Vous voyez, dans un cas comme celui-là, il n'y a pas, on est en novembre, je comprends que les gens ont besoin de planifier leur temps des fêtes, mais c'est une chose de dire à la population, ayez espoir, si ça va bien, voici ce que nous pourrons faire, et c'en est une autre que de changer de discours à tous les jours. Moi, j'aurais pas eu de problème à ce que, par exemple, à la mi-décembre, constatant une détérioration importante de la situation, le gouvernement dise, ben, vous voyez, les faits ont changé. Nous ne pouvons plus faire ce que nous pensions.
Oui, mais ça va peut-être encore arriver, ça. Oui,
ça peut arriver, mais de ceci, nous n'avons pas à en discuter tous les jours. Nous n'avons pas à en discuter à la journée longue. Qu'ils fassent leur travail, qu'ils viennent nous parler quand ils ont de la nouvelle information. Mais cet exercice de reddition de comptes et de propagande quotidien finit par énerver les gens. Moi, je pense que les gens ont bien compris ce qu'ils ont à faire. Ceux qui n'ont pas compris ne comprendront pas davantage. Alors, je pense qu'il y a lieu d'avoir une stratégie de communication qui est plus économe, disons.
Mais là, terminons là-dessus, Frédéric Bérard, on s'aligne vers un Noël suédois. Hein? On dit aux gens, ayez du jugement. Agissez en fonction de vos situations propres, chacun d'entre vous. Si vous travaillez avec le public, par exemple, vous octroyer la même liberté que quelqu'un qui est déjà confiné chez lui depuis plusieurs semaines, par exemple, ou si vous avez des personnes fragiles dans votre susceptibles d'être touchées plus durement par la COVID dans votre entourage, agissez en conséquence. On n'est pas habitué à ça au Québec, non? Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être là un problème? On est quand même l'endroit où on dit aux gens qu'on fait des règlements pour qu'ils soient suivis aux deux tiers, généralement, non? Alors, tandis que là, on va exactement au contraire.
Vous parlez de l'exemple suédois, que je connais un peu la Suède. Vous savez que là-bas, on trouve que la pandémie est une catastrophe pour une seule raison. C'est que maintenant, on peut pas être plus près d'une personne à moins de 2 mètres, mais avant, nous, en Suède, on tenait ça à 5 mètres, puis c'était bien correct.
Oui.
Je dirais qu'il y a clairement Il y a quand même une culture sociétale qui est absolument distincte. Là. Puis là, je veux pas ramener ça à nous sommes des latins, puis on a le sang chaud, blablabla. Bla, mais moi, la régulation par autodiscipline, là, je suis désolé, là, mais je n'y crois pas du tout, du tout.
Alors, auriez-vous préféré qu'on fasse comme comme en Ontario, Doug Ford qui dit Noël, c'est annulé cette année, à toute fin pratique?
Ouais, ben je pense que le risque est trop grand, mais en même temps, qu'on me comprenne bien, je vois la souffrance des gens de plus en plus. Je connais quelques personnes qui se sont même malheureusement et très malheureusement évidemment suicidées là, ces derniers temps. Là, le mois de novembre étant toujours difficile, donc on imagine ces temps-ci. Les étudiants souffrent en silence. Pour eux, là, c'est épouvantable là, d'entrer à l'université première session puis de tout ce qu'ils ont vu sur un ordinateur. Là. Et donc, je comprends cette espèce de propension à vouloir donner une chance aux gens de recréer des liens, d'avoir une espèce de support moral, une espèce de chaleur humaine et tout.
Ben oui, est-ce que c'est pas une belle marque d'humanité, au contraire, même s'il y a un risque important qui est associé à ça du point de vue de la santé publique?
J'aimerais pas être dans ce cas-ci, dans les souliers de François Legault, parce que il y a évidemment, puis il y a le volet politique de l'affaire aussi, ça va de soi pour pas dire électoraliste, mais bien franchement, encore aujourd'hui... Là,
alors, les gens qui disent ils font ça parce qu'ils commencent à avoir peur qu'on ne vote pas pour eux si ils sont trop sévères.
Quand même. On regarde l'appui dans les sondages, je pense pas que le gouvernement Legault a s'inquiété de ça.
En effet.
Mais ça, dit, quand on parle du bannisme, Nick, on peut peut-être aussi penser aux infirmiers, aux infirmières, aux médecins et pensées particulières aux préposés, aux bénéficiaires.
Qui vont casquer après s'il y a recrudescence, ouais.
Non, mais c'est parce que moi, j'en ai un, je parle toujours de mes trucs aujourd'hui, là, mais j'en ai un ami, justement, qui est préposé aux bénéficiaires, qui a fait son stage en conséquence, qui est dévoué, qui travaille de nuit, de jour et ainsi de suite. Puis il me dit, écoute, on essaie de se voir si on peut avant janvier, mais ça va être difficile parce que là, du 24 au 27, il dit, nos patients vont sortir, sont tout énervés. Ils s'en vont dans leur famille respective, puis ils vont revenir le 28, puis ils disent, écoute, ils oublient ça, là. Ils disent, nous, on va avoir à gérer ça, ça va être encore le royaume de la mort, là.
Frédéric Lapointe, est-ce que la décision était bonne de donner un peu de jeu aux Québécois pour Noël?
C'est pas une décision. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut, parce qu'on a vécu une pandémie, parce que l'action du gouvernement, tout d'un coup, s'infiltre dans nos vies plus qu'avant, on peut penser qu'on peut blâmer le gouvernement pour toutes sortes de choses qui vont arriver. Mais dans la vraie vie, le gouvernement ne contrôle pas nos vies. Nous prenons des décisions au meilleur de nos connaissances et nous prenons des risques au meilleur de nos connaissances. Et ce n'est pas de la faute du gouvernement si des gens se rencontrent dans la rue, dépassent les règles de la santé publique. La fonction du gouvernement, c'est de fournir toute l'information aux gens et d'encadrer autant que faire se peut le comportement des gens. Dans le cas des fêtes de Noël, je vous soumets que le gouvernement a fourni toute l'information utile aux gens, y compris de leur dire que ce n'est pas une bonne idée que vous en abusiez et même si vous pouvez l'éviter, évitez-le donc. Donc à partir de là, si des gens choisissent de se réunir avec leur vieille mère et qu'ils sont prennent pas leurs précautions, puis madame tombe malade, ce n'est pas le gouvernement qui est à blâmer. Ce sont les gens qui sont à blâmer. Alors, il y a une limite à vouloir faire porter au gouvernement l'odieux de nos propres décisions de tout un chacun. Et je pense que dans le cas des rassemblements des fêtes, ben c'est à chacun de voir à sa propre sécurité aussi.
Bon, alors, un truc, si vous voulez vous lancer en affaire, je vous propose des fourchettes à fondue de deux pieds de long, comme ça on pourrait s'éloigner du réchaud, ou peut-être à raclette, un truc à raclette avec de longs manches, un peu comme les trucs avec lesquels ils font des bagels sur la rue Saint-Viateur. Mais changeons de sujet, parce que, pardon de clore le sujet avec ces niaiseries.
De notre côté, là.
C'est ça. Frédéric Bérard, on a besoin de vos lumières pour parler du cas, c'est Alexandre Bissonnette, pardon, j'ai un blanc de mémoire soudainement. Ce jeune homme responsable de l'épouvantable fusillade survenue à la mosquée de Québec il y a un moment déjà. Alors, la Cour supérieure prenait une décision, là, rendait un jugement, en fait, cette semaine, c'est bien ça?
En fait, c'est la Cour d'appel qui avait à décider si la décision de la Cour supérieure était solide en droit. On peut s'attendre à ce que le dossier aille en Cour suprême, hein, par ailleurs, parce qu'on s'entend que c'est un dossier qui est très particulier et ça mettait...
Oui, de quoi on parlait exactement? Là? C'est de cet changement dans la loi fait par les conservateurs de Stephen Harper, hein, c'est ça?
C'est un peu technique, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. C'est qu'en fait, les conservateurs à l'époque... On modifie en fait le code criminel. On fait modifier le code criminel pour faire en sorte que les meurtres multiples, comme on les appelle, donc dans ce cas-ci, que leurs peines afférentes soient comptabilisées, si on peut dire.
Consécutivement, en fait.
Exact. Et donc, ce qui faisait en sorte au final, qu'en comptabilisant donc l'ensemble des peines, Bissonnette aurait été condamné à quelque chose comme 150 ans de prison.
Comme on le voit aux États-Unis, par exemple.
Exact. Mm-hmm. Et avec, on s'entend bien, l'espèce d'esprit de vengeance qu'on peut comprendre par ailleurs. Puis, je pense que personne ici et personne qui nous écoute qui va défendre Bissonnette, en tout cas, je l'espère bien. Mais ce n'est pas la question. Donc,
ça marque l'imaginaire. On dit, toi, t'es vraiment méchant, on te donne 221 ans de prison.
Oui, bon. Bon, exactement. Mm-hmm. Et là, c'est bien que vous dites ça, Nick, parce que vous venez de mettre le doigt sur quelque chose. La Cour d'appel a regardé la décision de la Cour supérieure qui, de manière très arbitraire, avait dit « Ah ben non, le 150 ans, c'est trop, mais là, on va mettre ça à 40 pour la libération conditionnelle. » Bon, bref, la Cour d'appel a dit « Non, c'est pas la bonne façon de procéder. »
Alors, parce que la Cour supérieure disait « Effectivement, ce n'est pas constitutionnel, cette disposition-là dans la loi. Donc, moi, je choisis arbitrairement 40 ans. » C'était 40, c'était 15 ans de plus que 25. Là.
Et là, qu'on se comprenne bien sur une chose, c'est que, contrairement à ce que j'ai vu dans les médias, c'est important là, de rectifier ces erreurs-là qui sont majeures, parce que c'est de la désinformation qui craint que les gens. Ici, Bissonnette est condamné à vie. À vie. Ça, ça fait aucun doute. La seule chose qui change, c'est le moment où il pourra réclamer, peut-être le cas échéant, une libération conditionnelle. Et ça, c'est 25 ans. Pour tout le monde.
Désormais, là, pour lui aussi.
Et c'est là que la Cour d'appel est intervenue. Puis elle a dit, le juge Jouot de la Cour supérieure, qui est allé avec un 40 ans, vous l'avez dit, arbitraire, ben c'est pas comme ça que ça fonctionne au Canada. Et là, elle fait des clins d'œil pas très sympathiques à l'oncle Sam en disant, nous, ici, au Canada, là, la vengeance ne peut pas être érigée en système. Ça veut pas dire que Bissonnette va être libéré dans 25 ans. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut simplement dire qu'il pourra faire la demande.
Est-ce qu'il fait une demande automatiquement ou il faut satisfaire à certains critères pour avoir même la capacité de faire la demande en question?
Ben dans ce que je connais pas toutes les technicalités, je vous avoue, c'est pas mon domaine, mais dans ce cas précis, c'est certain qu'il pourra au moins faire la demande d'ici dans 25 ans, à vrai dire. Mais je vous dirais que je mettrai pas l'argent d'épicerie sur le fait qu'il l'obtiendra. Parce que là, en termes de meurtre crapuleux, gratuit, un meurtre idéologique, si on peut dire, qui est absolument dégueulasse et qui doit être, je crois, condamné, mais ne doit jamais être oublié, ne serait-ce que pour les victimes. Disons que les chances de l'emporter pour lui dans 25 ans là, sont assez minimes, sinon inexistantes, je crois. Mais en même temps, et c'est pour ça que j'aime bien la décision de la Cour d'appel, c'est qu'elle a dit « Notre système au Canada et au Québec croit essentiellement à une chose ». C'est la capacité, l'espèce de réhabilitation potentielle. Ça ne veut pas dire que ça va arriver.
Alors, on pense au caporal Lortie ou à Carla Homolka, par exemple, qui sont libres maintenant.
On ne sait pas où la société va être dans 25 ans par ailleurs.
Ça, c'est vrai.
On pose un jugement, on vote des lois aujourd'hui et on se dit que ceci serait mérité. Mais 25 ans, 40 ans, c'est une génération. Le code peut évoluer, les mentalités peuvent évoluer. Et donc, dire qu'on se repenchera sur une situation dans 25 ans plutôt que dans 150, m'apparaît assez sage si je m'extirpe là, évidemment de toute l'émotivité légitime là, qui entoure ce dossier.
Mais là, peut-être encore Frédéric Bérard là-dessus, parce que ça touche à nouveau le droit constitutionnel, si je comprends bien. La Cour a dit que cet article de loi qui avait été adopté par les conservateurs de Stephen Harper n'est pas constitutionnel. Qu'est-ce qui arrive là? Il faut se pencher là-dessus?
Bien, en temps normal, ce qui arrive, c'est que la Cour invalide l'article comme tel. ne l'applique pas à Bissonnette, ce qu'elle a fait. Et là, c'est aux législateurs, là, dans ce cas-ci, on parle de...
Parce que là, on crée un précédent. On ne l'appliquera probablement plus à personne, désormais.
Ah, ben, non, pas probablement, assurément plus à personne. parce que il y a ce qu'on appelle la règle du stare decisis au Canada, qui fait en sorte que les tribunaux des provinces se vouent un respect mutuel. Et là, c'est pour ça que je vous disais que probablement que cette décision-là va monter en Cour suprême, pour que la Cour suprême du Canada puisse rendre une décision qui soit claire et nette et uniforme à tout le monde. Mais dans l'intervalle, la manière que ça fonctionne, quand il y a un tribunal supérieur comme la Cour d'appel du Québec qui dit cet article-là est inconstitutionnellement invalide et est constitutionnellement invalide, mais ce qui arrive, c'est que les autres provinces ne bougent pas et on attend par la suite la décision de la Cour suprême. Et si la Cour suprême refusait de se pencher sur la question comme telle, ce qui me serait assez surprenant parce que je pense même que l'appel est pris plein droit, mais si c'était le cas, ben, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, cet article-là est inconstitutionnel et ça sera au législateur de décider s'il veut remettre quelque chose au four là-dessus, mais j'en doute fortement puisqu'on parle de Justin Trudeau. Et de toute manière, la décision de la Cour, elle est très, très claire. On veut pas de ça au Canada. Les affaires aux États-Unis, le condamné pour 230 ans. Gardez ça chez vous. Ce n'est pas l'esprit de notre système. Il y en a qui trouvent ça trop mou. Il y en a qui trouvent ça momo.
Ben, assurément. Et là, il y a beaucoup de gens qui trouvent que M. Bissonnette bénéficie d'un passe-droit, que 25 ans, c'est rien. Ils sont convaincus qu'il sera libéré.
C'est ça que je vous disais tout à l'heure en rapport à la désinformation. Il sera pas libéré dans 25 ans. Il est condamné à vie. Dans 25 ans, il peut faire une demande de libération conditionnelle.
Oui, voilà. Pour certains, c'est encore trop. Mais passons
à... Ça, je comprends ça, je respecte ça aussi. Mais en même temps, est-ce qu'on ne veut pas envoyer un message que peut-être qu'un jour, tu pourras, si tu es fin, et si tu fais preuve de ci puis preuve de ça, peut-être que la société te pardonnera versus non... tu crèves ici pour les 225 prochaines années.
Le message, bien sûr, est celui de la possible réhabilitation de tous, sans distinction. Passons à un autre sujet dont on n'avait pas traité la semaine dernière. C'est quand même un sujet important. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose d'important à dire dans ce cas-ci. Je parle du plan vert de la CAQ qui a été finalement dévoilé par le ministre Charrette il y a deux semaines, là, qui n'a pas beaucoup satisfait, si je comprends bien, les militants écologiste. Frédéric Lapointe, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'on fait dans la demi-mesure parce que la pandémie change la donne économique?
Écoutez, la pandémie change tellement la donne économique que j'ai vu passer la discussion sur le plan vert, mais je n'y ai pas accordé moi-même d'attention. Alors, c'est vous dire que dans la grande échelle des priorités de la société, si je suis un tant soit peu représentatif de l'attention des électeurs, l'environnement est tombé un peu plus bas dans la liste. Du côté de la CAQ, on se souvient qu'au sortir de l'élection, comme il s'était fait critiquer à juste titre d'ailleurs comme étant le seul parti sans aucune sensibilité environnementale, alors ils se sont mis au travail pour au moins se protéger sur ce flanc. Mais il n'y a personne qui sera surpris de voir que dès qu'il y a un enjeu économique d'importance, là, je pense par exemple au port de gaz naturel et au projet à la ville de Saguenay, ben la CAQ met l'environnement de côté. Donc, ou même leur réflexe entourant les pesticides, l'usage des pesticides dans le domaine de l'agriculture, il y avait un lanceur d'alerte dans ce dossier-là. Et donc, le réflexe premier de la CAQ me semble toujours être de prioriser le développement économique, mais ils ont beau jeu dans le contexte actuel.
C'était une aubaine, non? Il n'y a pas de meilleur moment pour dire « Ah, ben là, écoutez, on est obligé de modérer un peu là-dessus. » Mais je passe la parole à Frédéric Bérard, auteur de « La Terre est une poubelle en feu », qui aura soit beaucoup à dire ou très peu en même temps sur ce sujet-là. Je vais compter sur le très peu parce qu'il nous reste à peu près une minute. Frédéric Bérard, vous êtes fâché, vous, non?
Ben, ça sera exactement comme vous l'avez dit. Ça sera le très peu, comme le plan de la CAQ, qui est une vraie farce. Et le ministre est... Si vous cherchez un job inutile dans la vie, Nick Payne, le ministre de l'Environnement pour la CAQ, ça, c'est pas si pire. Ça, c'est comme un gardien de but au soccer, probablement. Ça sert absolument à rien. Tant mieux, il a essayé de faire le goaler, justement, tout le monde en parle. Il s'est fait défoncer par Laure Varidel pour la simple et bonne raison que Ça n'existe pas, ce plan-là. C'est pas compliqué. La preuve, c'est que son propre ministère est obligé d'envoyer des avis au bureau de Legault, parce que c'est le bureau de Legault qui a stoppé le plan initial. Ils sont obligés d'envoyer des avis d'experts indépendants. Vous dites, c'est sérieux, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Blablabla. Puis évidemment, le gouvernement Legault, qui est quand même très électoraliste, on va se le dire, a décidé que l'environnement, ben, tout le monde s'en fichait. Et comme le disait Frédéric tout à l'heure, il n'y avait peut-être pas tard, parce que si effectivement on a porté si peu d'attention alors qu'on suit l'actualité, on peut imaginer ce que les autres Québécois qui s'intéressent moins à la politique ont porté comme intérêt.
C'était le moment idéal pour lancer quelque chose qui va pas très loin, si tant est que c'était effectivement le cas. Ben, merci beaucoup Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe, le duo de l'actualité. Puis à la semaine prochaine, allez préparer, planifier vos fêtes de Noël.
Ça, oui.
Et gardez l'œil sur les statistiques. Oui, c'est ça.
Oui. Il y aurait une blague à faire là-dessus, mais on n'a pas le temps.
On n'a pas le temps. Dans un instant, chers auditeurs, les députés de l'Assemblée nationale, Catherine Fournier est avec nous.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors, elle est députée de l'Assemblée nationale. Elle était députée du Parti québécois avant de décider de siéger comme indépendante. Elle avait publié, ben, elle a publié plusieurs. Elle a publié L'audace d'agir chez Somme toute, si je ne m'abuse, toujours au même endroit. Le projet Ambition Québec, ça c'était publié en 2019, et tout récemment, un manifeste, toujours chez Somme toute, pour ce projet Ambition Québec qui prend forme, qui prend la forme d'un mouvement politique non partisan. Elle est en ligne avec nous. Catherine Fournier, bonjour.
Oui, bonjour, Nick Payne.
Alors, j'arrive pas dans mes papiers virtuels à retrouver le titre du manifeste. Comment ça s'appelle?
Le manifeste, tout simplement.
Ah, c'est ça, c'est le manifeste. Alors, Projet Ambition Québec, le manifeste, et ça aussi, c'est publié chez Somme Toute. Alors, j'ai lu ça, il y a dans ça différentes sections, il y a même des poèmes, évidemment, qui sont à thématique indépendantiste, je dirais. Vous avez trois témoignages, si je ne m'abuse, d'une fille à sa mère, d'un père à ses fils, et j'oublie la thématique exacte du troisième, mais ils ont en commun de présenter des gens qui, pendant un moment de leur vie... Ah oui, le troisième, c'est une jeune femme qui s'adresse à une de ses amies avec laquelle elle avait des projets de jeunesse, des projets de carrière en musique. Et donc, les trois personnes, ces trois... Dans les trois modèles, ce sont des gens qui ont, pendant un temps, renoncé à certaines ambitions, puis qui décident de changer de vie et de s'assumer et d'aller au bout de leur affaire. Alors, on voit très bien ici le parallèle avec l'idée de l'indépendance du Québec. Est-ce que je me trompe?
Oui, tu l'as bien dit. Effectivement, on a voulu faire des quêtes métaphoriques en fait avec en présentant des parcours de Québécoises, de Québécois, et en faisant des liens avec l'idée d'indépendance pour montrer qu'au fond, c'est quelque chose qui a à voir avec l'authenticité, avec l'émancipation, avec la liberté, puis qu'on peut dresser des parallèles avec nos vies personnelles. Donc, c'était l'objectif.
En effet. Puis, à la fin, plus loin dans le manifeste, on peut lire une conversation entre les divers membres actuels de votre mouvement. C'est ça, là, les personnes que vous nommez, que vous avez nommées là, publiquement, dont je n'ai pas les noms sous les yeux, mais qui vous accompagnent dans le lancement du projet Ambition Québec.
Les membres de l'équipe fondateur. Donc, voilà, le manifeste est divisé vraiment en trois parties. La première étant les fameuses quêtes. La deuxième étant davantage descriptive politique. Donc, qu'est-ce que le projet Ambition Québec? Puis, la troisième section présente, en fait, les assises de notre réflexion. Donc, pourquoi le projet Ambition Québec existe-t-il? Quelles sont les questions qui animent les membres de l'équipe fondatrice? Donc, c'était vraiment un objet qu'on voulait créer pour poser les jalons de ce mouvement-là, de nous présenter. En fait, c'est vraiment comme une carte de visite. C'est aussi un outil, selon nous, là, pour peut-être parler à des gens qui se sentent pas nécessairement interpellés par la politique d'ordre général. Vous aurez peut-être constaté là au départ, justement, les histoires sont écrites de telle sorte que des gens qui sont peut-être moins familiers avec l'univers politique puissent s'y retrouver. Puis je pense qu'on a voulu aussi que ces histoires aient quelque chose d'universel à l'échelle québécoise pour que tout le monde puisse s'y retrouver un peu à quelque part.
Alors, vous avez dit pourquoi votre mouvement existe. Vous avez posé la question. Vous avez dit on veut expliquer pourquoi il existe. Alors, justement, moi, je vous la pose. Pourquoi, au juste? Quelle est la mission exacte?
La mission du projet Ambition Québec, c'est de mobiliser la population québécoise autour d'un idéal de société, donc un projet de concrétiser en fait l'idée d'indépendance qui peut peut-être apparaître comme abstraite pour beaucoup de gens. Puis pourquoi mobiliser? Ben, c'est parce que bon, on ne cachera pas que le mouvement souverainiste au Québec, c'est déjà mieux porté. On a l'impression qu'il y a comme une déconnexion qui s'est accentuée ces dernières années en disant peut-être les partis politiques porteurs de cette option-là et la population québécoise. Donc, l'objectif, c'est vraiment de retourner sur le terrain le plus près des gens possible, mobiliser, recréer une ferveur, ou en tout cas, on est humble, je veux dire, contribuer à créer cette ferveur-là autour du projet. Mais on croit qu'il y a différentes initiatives dans la société civile qui doivent s'additionner pour ce faire. Nous, on a envie de contribuer, mais c'est parce qu'on est convaincu que tant qu'il n'y aura pas cette ferveur-là, tant que la question nationale ne reviendra pas plus centrale, disons, dans les débats politiques, ben il n'y aura pas de volonté au niveau, là, par exemple, des partis représentés à l'Assemblée nationale ou sur la scène politique québécoise de façon plus large. Il n'y aura pas nécessairement de volonté de rassemblement. Puis, selon nous, ben, le rassemblement il est nécessaire à la victoire. Donc, l'objectif, c'est de prendre peut-être le problème à l'envers. Donc, au lieu de compter sur les partis politiques pour faire quelque chose, ben, de créer de la mobilisation devant la population pour que la pression vienne de la population.
Eh bien, justement, sur cette partie-là de votre réflexion, des principes que vous énoncez, vous vous doutez bien que je vais vous poser cette question qui vient tout de suite. Il me semble qu'il y en a 172 des mouvements souverainistes qui ont tous, à un moment ou un autre, dit quelque chose comme ça, comme ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que, bon, là, il faut arrêter d'attendre les partis politiques. Commençons par la base, allons voir les gens, soyons plus proches de leurs préoccupations, plus représentatifs, et ainsi de suite. Puis, on s'aperçoit toujours, on fait toujours le même constat à un moment donné, c'est que les moyens de ces mouvements-là sont infiniment moins grands que ceux des partis politiques, notamment dans leur capacité d'être présent dans le débat public au quotidien. Là. Est-ce que, comment pensez-vous que réussir à casser ce problème-là?
C'est sûr que ça pose certaines difficultés. Hein, ça, on ne nie pas. Par contre, je pense qu'il y a des moyens peut-être innovants qui peuvent être utilisés. Puis ça sera... pas pour diminuer ce qui a été fait auparavant. Moi, je pense que chaque initiative qui a été faite, bon, il y en a qui ont peut-être été plus porteuses que d'autres, mais je pense que ces initiatives-là, elles doivent s'additionner. Nous, on veut essayer quelque chose. Est-ce que c'est garanti que ça va mieux fonctionner? Pas du tout. Ce que je sais, c'est qu'on est très motivés, qu'on est prêts à s'engager pour plusieurs années. C'est peut-être la différence aussi. Peut-être que parfois... certaines initiatives se voulaient peut-être plus à court terme. Nous, on est conscients que ça va prendre quelques temps, puis on est prêt à s'embarquer, puis on a une vision plus à long terme. Aussi, on cible beaucoup les nouvelles générations. Je pense que c'est peut-être là une différence peut-être marquée avec ce qui a pu...
Oui, avec les Oui Québec et les autres, là, qui sont, oui, c'est ça, qui regroupent souvent toujours les mêmes personnes, les mêmes visages qu'on est habitué de voir depuis bien longtemps.
Puis, je veux dire, moi, je constate que leur action, elle est importante, mais si on veut réussir à générer quelque chose peut-être de nouveau, de différent, pour venir s'additionner à ce qui existe déjà et ce qui est bien, c'est d'aller sortir des cercles déjà convaincus. Ça, en tout cas, de la façon dont je vois l'action du projet Ambition Québec, les gens qu'on rencontre jusqu'à maintenant, qui sont vraiment à l'extérieur des gens qui sont habitués de s'impliquer ou de s'engager ou qui sont là depuis de nombreuses années. Je pense que ça, c'est quelque chose de positif. Puis nous, on va vraiment essayer d'établir là-dessus. Mais je pense que c'est aussi de dire, puis je reviens à la logique d'additionner, nous, on ne croit pas que c'est quelque chose qui est négatif, qu'il existe plusieurs mouvements ou qu'il existe plusieurs écoles de pensée au sein du mouvement souverainiste.
Ben, vous comprenez que moi, je ne voulais pas dire qu'il y en a trop. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas l'air de marcher. C'est plutôt ça.
Ben, je pense qu'il y a quand même des choses qui se sont faites de bien. Maintenant, bon, est-ce que ça aurait peut-être pu être plus efficace par le passé, certaines initiatives? Certainement. Je pense qu'on ne peut pas le nier, mais est-ce que c'est parce que certaines choses qui n'ont pas marché par un passé qu'il ne faut pas réessayer de ce genre d'initiative-là, peut-être avec des nouvelles méthodes? Moi, je le crois. De toute façon, personnellement, je pense vraiment que la voie des partis politiques en ce moment, elle est bloquée. Donc, je préfère me dire que l'énergie va être investie au niveau citoyen. Puis, on espère que ça va fonctionner. C'est une tentative. On est bien conscient qu'il y a énormément de défis, mais je pense que la détermination et la motivation, ça joue beaucoup aussi. Puis, on n'en manque pas.
Il y a dans votre votre présentation, dans la comment dire l'interface du projet Ambition Québec, une volonté manifeste, me semble-t-il, de faire de la place aux gens issus de ce qu'on appelle désormais la diversité. En fait, on parle de diversité, disons, des origines ethno-culturelles, on va le dire comme ça. Des femmes, des jeunes, mais aussi très clairement là, des gens issus de minorités. Visible, disons-le comme ça. Tiens, c'est une volonté que vous avez, ça, non? Ça me paraît évident.
Oui, clairement. Mais comme.
Mais il y a beaucoup de souverainistes qui sont un peu.
Oui, allez-y.
Ah, pardon. Oui, c'est le foutu délai des téléphones cellulaires, pardon. Il y a beaucoup de souverainistes qui voient ça d'un œil. Ils vont vous dire vous êtes multiculturaliste. C'est pas le moment de se perdre en courbette devant certaines minorités qui, de toute façon, ne veulent pas nous entendre. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
On parle de leur faire, de faire de la place à des gens.
Ben, autrement dit, vous essayez de montrer
pas,
ce visage.
Moi, je pense que c'est important de montrer le visage de ce qu'est le Québec aujourd'hui. Et puis, je veux dire, c'est un peu la même question dans les médias. Souvent, des jeunes ou moins jeunes issus de la diversité se reconnaissent pas nécessairement dans les médias québécois parce qu'ils ne sont pas représentés à l'écran. Mais je pense que ça peut être un peu la même chose pour le mouvement souverainiste. S'il n'y a pas des souverainistes issus de la diversité qui sont présents en avant de la scène et qui prennent la parole, ben il y a des gens peut-être issus de la diversité qui ont de la difficulté à se reconnaître dans le mouvement. Donc, l'objectif, c'est de donner de la place à ces gens-là qui puissent prendre la parole, qui puissent être vus, qui puissent servir de modèle aussi pour d'autres Québécoises, aux différentes origines qui peuvent se sentir interpellées par l'idée d'indépendance, mais qui pourraient peut-être être freinées parce qu'ils n'ont pas de modèle auquel s'identifier. Nous, on veut créer ces modèles-là.
Bien sûr. En fait, ce que vous dites est très clair. J'ai mal formulé la question. Ce que j'essayais de vous dire, c'est qu'il y a un clivage qui traverse le mouvement indépendantiste et le Québec de façon plus large là, sur le rapport justement au multiculturalisme et à cette difficulté d'une part d'intégrer, mais d'autre part de ne pas avoir l'air d'un peuple fermé sur lui-même. Et il y en a qui prennent ça personnel quand on manifeste ce genre de volonté ou qui disent « bon ben voilà, vous êtes multiculturaliste, on va vous retrouver chez Québec solidaire bientôt ». Bref, est-ce que vous avez peur de cliver avec ça ou si vous pensez que ça peut vraiment marcher?
Non, pas du tout. C'est vraiment une question d'être représentatif du Québec d'aujourd'hui. C'est même pas la question du multiculturalisme ou de l'interculturalisme, peu importe ce qu'on peut appeler. On veut présenter des gens qui croient en l'idée d'indépendance, qui se sentent québécois, qui ont ce sentiment d'appartenance à notre nation. Puis tant mieux s'ils reflètent la diversité du Québec d'aujourd'hui, puis que ça peut faire en sorte que ça puisse parler enfin à des gens qui sont issus justement de ces différentes minorités, qui ont la difficulté à se voir dans la majorité parce qu'ils n'ont pas nécessairement de modèle de référence. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose de positif, peu importe où on peut se situer. situer sur cette question-là, sur ce débat-là. Moi, je pense pas que ça va poser problème, d'autant qu'on va explicitement chercher à être le plus rassembleur possible. Donc, non, il n'y a pas question de cliver avec cette question-là.
Ah, c'est pas une prise de position. Oui, oui, c'est ça. Vous ne voulez pas manifester, par exemple, un appui au rentrer dans le débat sur le racisme systémique et le multiculturalisme et tous ces concepts-là.
Quand on parle de mettre de l'avant des gens qui ont différentes origines, c'est vraiment une question de représentativité à mm-hmm. ce point-ci.
En terminant, Catherine Fournier, la question qui arrive toujours dans votre cas, c'est et vous êtes habitué d'y répondre, mais je recommence. Je vous demanderai pas si vous êtes bientôt de retour au Parti québécois. Oublions-la, celle-là. C'est plutôt ou alors si vous voulez aller à Québec solidaire ou vous représenter, peu importe, en politique. Non, la question que je vais vous poser, c'est plutôt les mouvements qui sont comme ça, présentés, fondés comme le vôtre, souvent sont d'une première étape vers la fondation d'un parti politique. Est-ce que c'est le cas?
Non, ce n'est pas le cas. Merci de me donner l'occasion de répéter, mais le Projet Ambition Québec, c'est vraiment une organisation à but non lucratif, c'est un mouvement citoyen qui le restera, donc ça ne deviendra jamais un parti politique.
Ah oui, alors c'est catégorique comme ça, il n'y en est pas question.
Exactement.
C'est très clair. Catherine Fournier, fondatrice ou co-fondatrice, hein, fondatrice avec,
co-fondatrice.
Oui, avec d'autres du projet Ambition Québec. Alors, on ira voir vos choses sur les réseaux sociaux et les différentes plateformes.
Oui, oui, tout à fait. Tous ceux qui ont manqué le lancement peuvent le réécouter en ligne, que ce soit sur YouTube ou c'est également disponible sur notre page Facebook. Puis le manifeste est également disponible dans l'ensemble des librairies. On invite à encourager les librairies indépendantes.
Alors, ben, c'est parfait, c'est bien noté. Catherine Fournier, merci d'avoir été avec nous, députée de Marie-Victorin à l'Assemblée nationale, en espérant vous voir œuvrer là-bas encore longtemps, tiens.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
Au plaisir.
Dans un instant, chers auditeurs, Nicolas Vidal en direct de Paris. À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors, nous avons remplacé Nicolas Vidal à la dernière seconde parce qu'il y a un problème là-bas. Monsieur Vidal est dans une entrevue en direct à la télé. Il y a quelque chose qui a tardé. Bref, c'est pas grave parce qu'on avait encore des sujets à traiter avec Frédéric Lapointe qui était pas loin du téléphone, qui est toujours au bout du fil. Bonjour, Frédéric Lapointe.
Rebonjour.
Rebonjour. Il n'y a pas meilleure personne que vous pour parler plus récent... c'était pas un congrès, c'était un conseil national, je crois, du Parti québécois, dans lequel le nouveau chef, Paul-Saint-Pierre Plamondon, présentait une plateforme, une proposition de programme. Hein, c'est comme ça qu'on appelle ça en jargon, dans le jargon des partis politiques, c'est-à-dire que c'est une proposition à partir de laquelle les membres du parti vont débattre et s'organiser pour faire le tri dans tout ça et arriver à un produit final à temps pour les élections. Hein, c'est un peu ça.
Oui.
Alors, c'est une plateforme écrémée, simplifiée. Le Parti québécois, habituellement, c'était plus d'une centaine de pages. Là, on est revenu à 30 pages de choses très simples et concentrées et avec la réalisation de l'indépendance du Québec, là, vraiment comme fil conducteur. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste? Est-ce que on va dire, bon, ben, voyez, les péquistes se replient sur ce projet dont plus personne ne veut et par conséquent, nous voterons pour la CAQ?
Oui, ben, je vais avoir un commentaire d'analyste et non pas de membre du Parti québécois que je suis. Donc, j'avertis l'auditoire.
Vous pouvez faire un peu des deux.
Oui, c'est ça. Cette fin de semaine, il y avait deux conseils nationaux. Il y avait celui de Québec solidaire et il y avait celui du Parti québécois. Il me semble, lorsqu'on regarde le message qui ressort du week-end, du côté du Parti
Québécois, on répète le mantra de l'importance de la souveraineté, de la conviction que cela est possible. Et donc, ça donne l'impression, et c'est très et ça correspond à la réalité, qu'ils sont en pré-campagne référendaire, qu'ils veulent mettre cet élément haut dans l'agenda. Et du côté de Québec solidaire, je le rappelle, l'élément qui a été dominant dans les médias, c'est leur impôt pandémie. C'est le fait de lever des sommes auprès des entreprises ou des individus qui s'en sont mieux tirés ou même qui ont profité de du contexte de la pandémie pour éviter des coupes dans le secteur public ou rétablir l'équilibre des finances publiques. Je vous souligne que l'un des deux a probablement mieux répondu que l'autre aux besoins de notre temps. Et c'est Québec solidaire qui, à mon avis, a gagné ce match avec une proposition qui n'est peut-être pas très populaire a priori. Proposer d'augmenter les impôts, ce n'est pas très populaire, mais elle avait le mérite d'être articulée aux problèmes de notre temps, d'être courageuse et d'être concrète dans l'hypothèse où il se retrouverait au gouvernement. Alors que de l'autre côté, ben, la profession de foi souverainiste du Parti québécois lui est utile. Ça lui permet de garder ses électeurs, de garder la paix dans le parti et tout ça. Mais il y a un point au-delà duquel il faudra se demander, est-ce que le Parti québécois ne parle que d'un seul sujet, indépendamment de tout ce qui peut arriver aux Québécois par ailleurs? Donc, le commentaire peut surprendre, mais je pense que c'est un week-end qui a été gagné par Québec solidaire.
Qui, par ailleurs, a dissous son comité sur la... Pas le comité, c'est un groupe de réflexion, je ne me souviens pas des noms, un club, j'oublie le terme exact, là, sur la laïcité. Hein?
Oui, le comité laïcité. Ça, c'est très intéressant. Ils ont, et on peut les critiquer pour ça, ils ont fait le choix de l'absence de transparence. Ils ont fait le choix de ne pas se mettre en spectacle. Parce que si ça avait été l'élément principal du week-end, c'est ce qu'on aurait retenu. Encore de la chicane à Québec solidaire, encore des gens qui se font baïonner, et en particulier sur des sujets sur lesquels ils sont en porte-à-faux avec la majorité des Québécois. Donc, ils sont très conscients de ça, et ils ont réussi à contrôler leur message pour que ce soit davantage leur proposition fiscale qui ressort. Donc, on peut saluer l'habileté, mais forcément, ça demande l'utilisation du huis clos dans leur cas. Et c'est pas un exemple de transparence, on s'en doute.
Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, pour en revenir au Parti québécois, c'est que ce parti, en essayant de se réaligner, de se remettre en phase avec son option fondatrice et la volonté de sa base et de ses militants, est à risque de se couper davantage des Québécois. Pensez-vous qu'il est possible de joindre les deux missions, c'est-à-dire de faire comme souhaite le faire Paul Saint-Pierre Plamondon? Parce que vous voyez dans son programme quand même un nombre appréciable de propositions et certaines sont à noter comme étant celles qui seront effectives dans un Québec souverain. Hein? Mais il y a quand même aussi un grand nombre de propositions réalisables de façon plus dans l'absolu, là, en dehors de la question de la souveraineté. C'est pas suffisant selon vous?
Le réalignement du Parti québécois s'est fait. On l'a vu durant la course à la chefferie, certains plus tôt que d'autres. Tout le monde a cessé de craindre la tenue d'un nouveau référendum, de craindre la défaite et de dire non, nous sommes un parti souverainiste, nous ne craignons pas de tenir un référendum dans un premier mandat. Enfin, il y a des nuances du côté de Frédéric Bastien, mais on peut pas dire que le discours de Frédéric Bastien est un discours complexé, hein, il est plutôt décomplexé sous d'autres aspects. Et donc, ce travail-là de relever la tête, d'être à l'offensive, d'être décomplexé, il a été fait. Maintenant, il serait bon que le Parti québécois ne reste pas sur ce pilote automatique et entreprenne la tâche qui est de s'adresser aux problèmes que vivent concrètement les Québécois, de s'adresser aux problèmes que vit concrètement l'État du Québec. Et on ne peut pas simplement, en face d'un déficit de 15 milliards de dollars, d'un taux de chômage qui a augmenté, d'une pandémie qui n'est pas réglée, de vaccins qui ne seront pas distribués aussi rapidement que dans les autres pays, tenir continuellement des conseils nationaux où on va redire ce que tout le monde sait, le Parti québécois est souverainiste. Alors, je pense qu'au bout d'un certain temps, ça va apparaître là comme un monologue ou une dérive.
Alors justement, il nous reste peu de temps. Quand un parti politique s'attelle à faire des propositions aux Québécois, aux électeurs en général, pour les défis du jour, les défis de l'époque, il choisit généralement un système de pensée, un système de valeurs, et de ce fait, il se campe plus ou moins à gauche ou à droite sur l'axe qu'on connaît, là, où enfin il est plus conservateur, plus libéral, plus ceci, plus cela. Où est l'espace que le Parti québécois peut occuper? Vous avez parlé des propositions de Québec solidaire. On sait très bien où on loge de ce côté-là, c'est-à-dire généralement pas en phase avec la majorité des Québécois, hein, un peu plus à gauche, certainement. Est-ce qu'il y a de la place entre ça et la CAQ et les libéraux qui, finalement, au bout de la ligne, finissent toujours par être quelque part au centre de l'échiquier dans la pratique, là?
Le Parti québécois a une personnalité qui lui est propre, comme l'interventionnisme contre le crime. Hein. Le Parti québécois est le champion de la lutte au crime organisé. Il est le champion de la probité en politique. Il est aussi, c'est bon de le rappeler, le champion de la discipline budgétaire. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger les revenus de l'État, il faut protéger les équilibres financiers de l'État pour que ces missions puissent être accomplies, pour qu'on soit fort collectivement et non pas faible, dépendant des marchés. Le Parti québécois, c'est le parti des services publics. Hein? On en a nationalisé plusieurs. Les derniers en date, je pense au service de garde, hein. C'est un grand service public que le Parti québécois avait mis sur pied. La décentralisation, la démocratisation de la prise de décision, quand on voit ce qui se passe en éducation avec les centralisations entre les mains du ministre, il y a une approche qui est très distincte du Parti québécois en cette matière. Donc, il y a un ensemble de sujets sur lesquels le Parti québécois a une personnalité forte. Sur le français, ça passe très bien, hein, soit dit en passant. Sur le multiculturalisme, le Parti québécois s'affirme aussi très bien. Alors, il me semble qu'il y a d'autres sujets plus proches également de la réalité de ce que vivent les Québécois, où le Parti québécois peut définir son option.
Merci, Frédéric Lapointe.
C'est aussi une option de gouvernement.
Vous aviez un bel élan, mais je dois vous quitter là-dessus. Merci d'avoir à pied levé répondu à nos questions. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit à la semaine prochaine pour une autre édition de Société. Portez-vous bien.